Le moteur Brown Perricor par Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. Cette soirée de mai 1904 était froide, brumeuse et mélancolique. Le long du Strand, des taches de clarté sans contour marquaient seules la position des réverbères. Les vitrines flamboyantes des magasins ne traversaient que d'un tremblotant et vaporeux éclat l'épaisse atmosphère. Dans le désert des rues dont les hautes maisons descendaient vers la Tamise, à peine si, de loin en loin, la lampe d'un veilleur trouait les ténèbres. Sur un point, cependant, un flot de lumière, tombant des fenêtres d'un deuxième étage, rompait la noire monotonie des quais, et les passants, levant curieusement la tête, se signalaient entre eux cette coulée vermeille. Car elle témoignait que là, indifférent à la marche des heures nocturnes, l'ingénieur et inventeur électricien Francis Perricor poursuivait sans relâche, sans fatigue, ses recherches qui étaient en train de le porter au premier rang parmi ses pairs. Il y avait deux hommes dans la pièce. L'un était Perricor lui-même, profil de faucon, ligne anguleuse, avec ce noir des cheveux et cette vivacité d'action où se trahit l'origine celtique. L'autre, pesant et robuste, était le mécanicien bien connu James Brown. Tous les deux avaient ensemble collaboré à plusieurs inventions, celui-là y apportant son génie créateur, celui-là ses talents pratiques. Et leurs amis se demandaient à qui, de l'un ou de l'autre, revenait la supériorité de mérite. Ce n'était pas par hasard que Brown se trouvait à une heure si avancée dans le laboratoire de Perricor. Ils avaient des dispositions à prendre qui décideraient l'échec ou le succès d'un labeur de plusieurs mois et affecteraient toute leur carrière. Entre eux s'allongeait une table brune, souillés et corrodés par les acides. Des touris géants y voisinaient avec des accumulateurs forts, des piles voltaïques, des bobines de Ruhmkorff et de grands isolateurs de porcelaine. Au milieu de ce désordre se dressait une étrange machine qui tournait en sifflant et sur laquelle les deux collaborateurs avaient les yeux rivés. Tout un réseau de fils reliait un petit coffre métallique de forme carrée à un large anneau où s'articulait sur chacun des deux côtés une bielle puissante. L'anneau était immobile, mais la manivelle et le levier des bielles décrivaient leur mouvement rotatif dans l'espace de quelques secondes en marquant d'une pause le rythme de chaque tour. Évidemment, l'énergie motrice leur venait du coffret métallique. Une subtile odeur d'ozone imprégnait l'air. « Et les ailes, Brown ?» demanda l'inventeur. « Je n'ai pu les apporter. Songez à leur dimension, 4 pieds sur 3. Mais le moteur est d'une force suffisante, je vous en réponds. Elles sont, n'est-ce pas, d'aluminium mélangé de cuivre ? Oui. Admirez comme cela marche. » Allongeant une fine main nerveuse, Perricor pressa un bouton. Le mouvement des bielles se ralentit, bientôt elles s'arrêtèrent net. De nouveau il toucha un ressort, et de nouveau elles s'éveillèrent en frémissant à leur vie mécanique. « Nul besoin pour l'expérimentateur, fit-il, de mettre à contribution sa force musculaire. Il n'a pas à bouger. C'est assez qu'il use de son intelligence. » « Grâce à mon moteur, » dit Brown. « À notre moteur, » rectifia Perricor d'un ton piqué. « Oh, bien entendu, » fit l'autre avec impatience. « Vous l'avez imaginé, je l'ai réalisé. Appelez-le comme il vous plaira. »«
Je l'appelle le moteur Brown Perricor, » repartit l'inventeur, dont un éclair de colère alluma les sombres prunelles.
« Vous en avez combiné le détail, mais l'idée en vient de moi, et de moi seul. »
À quoi Brown riposta aigrement. « Une idée ne fait pas tourner une machine. »
Aussi vous ai-je associé à mon entreprise,
conclut Perricor, dont les doigts fébrilement tambourinaient sur la table.
Je conçois, vous construisez, c'est la bonne division du travail.
Cette réponse n'eut pas l'air d'enchanter Brown. Il pinça les lèvres. Toutefois, jugeant la discussion inutile, il se remit à considérer la machine qui trépidait et se secouait à chaque instant comme toute prête à quitter la table.
N'est-ce point magnifique? S'écria Perricor.
C'est satisfaisant, dit l'anglo-saxon plus flegmatique. Il y a l'immortalité dans une invention pareille. Il y a l'argent.
On nous citera un jour auprès des montgolfières.
Auprès des Rothschild, j'espère.
Non, non, Brown, vous avez une façon de voir trop matérielle.
Et détournant les yeux de la machine pour les reporter sur son compagnon.
La fortune, ajouta Perricor, n'est qu'une question secondaire, un avantage que pourrait partager avec nous le plus grossier plutocrate d'Angleterre. Mes espoirs visent plus haut. Notre vraie récompense, nous la trouverons de la gratitude des hommes. »
Brown haussa les épaules.
« Je vous laisse ma part, » dit-il. « Moi, je suis un esprit positif.
Il s'agit de mettre notre machine à l'épreuve. Mais l'endroit pour cela? C'est de quoi, précisément, je voulais vous parler. Nous aurions intérêt à nous que l'affaire irait d'elle-même. Impossible à Londres de nous promettre le secret. Alors va pour la campagne. J'ai songé à ceci, dit Brown. Mon frère William a une maison sur les hauteurs du Sussex, aux environs de Beachyhead. Je me souviens que, près de la maison, se trouve une grange très vaste et très élevée. William est en Écosse, mais la clé du logis reste toujours à ma disposition. Pourquoi, dès demain matin, ne transporterions-nous pas là-bas la machine pour l'essayer dans la grange? Nous avons un train pour Eastbourne à 1 heure. Je serai à la gare. Apportez le moteur, j'apporterai les ailes, dit le mécanicien en se levant. Demain nous apprendra si nous poursuivons une ombre ou si la fortune est à nos pieds. Donc, gare de Victoria, demain à 1 heure de l'après-midi. Là-dessus, Brown descendit vivement l'escalier pour se replonger dans la triste marée humaine dont les courants contraires montaient et descendaient le Strand. Chapitre 2e. Une matinée de printemps déployait sur Londres, le lendemain, son ciel d'azur pâle où flottaient indolemment les gazes blanches de quelques nuées. Au coup de 11 heures, l'on y peut voir Brown entrer au bureau des brevets, tenant sous le bras un grand rouleau de parchemin auquel étaient joints des plans et des épures. À midi, il en ressortait souriant, ouvrait son portefeuille et y rangeait avec beaucoup de soin un petit papier bleu officiel. À 1h05, il arrivait en cab à la gare de Victoria. Deux colliers énormes, recouverts de toile, et pariés à des cerfs-volants démesurés, étaient placés sur le toit de la voiture. Quand le cocher les en eut fait descendre, Brown les remit au chef de train. Déjà, Péricourt arpentait le quai d'un pas vif, les bras ballants. Un peu de rose teinta ses joues creuses et blafardes. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Brown lui désigna du doigt le fourgon. « Le moteur et l'anneau sont là. » Et s'adressant au chef de train, « Je vous les recommande. Ce sont des machineries très délicates, d'une valeur considérable. » À Eastbourne, le précieux moteur passa du train sur un omnibus. Les deux grandes ailes furent hissées sur la galerie. Après un trajet de quelques longueurs jusqu'à l'endroit où étaient déposées les clés, Péricourt et son associé abordèrent enfin la région sauvage des dunes. La maison où ils se rendaient était une bâtisse médiocre, lavée à la chaux, perdue au milieu des tables, des écuries, du hangar, dans un repli que dessinait, à partir du sommet, la pente crayeuse de la falaise. Même habitée, une pareille demeure manquait assurément de gaieté. Aujourd'hui, avec ses volets clos et sans une fumée s'échappant de son toit, elle paraissait 2 fois plus morne. Le propriétaire l'avait entourée d'une plantation de sapins et de mélèzes, qui malheureusement, flétries en peu de temps par les embruns, penchaient partout leurs têtes jaunissantes. Le lieu en vérité n'avait rien que de morose et d'hostile. Mais les inventeurs n'étaient pas d'humeur à s'en émouvoir. Au contraire, plus absolu était le désert, plus il convenait à leur dessein. Aidés par le cocher, ils descendirent leurs paquets le long du petit chemin et les déposèrent dans la salle à manger obscure. Le soleil déclinait sous l'horizon quand un bruit de roues qui s'éloignait les prévint qu'ils étaient seuls. Péricourt avait rabattu les volets contre le mur. La tendre lumière du soir ruisselait à travers les carreaux ternis de la fenêtre. Brown, avec le couteau qu'il portait sur lui, coupa la corde qui retenait autour de l'un des paquets l'enveloppe de serpillière. La toile, en tombant, mit au jour 2 grandes ailes de métal jaune qu'il rangea avec précaution contre le mur. Il dépaqueta de même l'anneau, les courants de transmission et le moteur. La nuit était venue avant que tout ne fût en ordre. On alluma une lampe, à la lueur de laquelle les deux hommes, serrant des boulons, enfonçant des rivets, mirent la dernière main aux préparatifs de leur expérience. « Ça y est !» dit enfin Brown, en se reculant pour mieux voir la machine. Péricourt ne dit rien, mais son visage rayonnait d'orgueil et d'espoir. « À présent, dis non !» reprit Brown, en étalant devant eux quelques provisions dont ils s'étaient munis. « Tout à l'heure !»« Non, tout de suite, je meurs de faim !» Sans plus de façon, le mécanicien s'attabla. Mais tandis qu'il mangeait à belles dents, son compagnon, avec une impatience toute celtique, déambulait de long en large dans la pièce, crispant les doigts et promenant le regard d'un côté à l'autre. Le repas terminé. « Et maintenant, dit Brown, qui de nous deux va essayer la machine ?»« Moi !» s'écria Péricourt. « Ce que nous faisons ce soir marquera sans doute une date historique. Mais l'opération ne va pas sans risque. Nous ne pourrions dire comment se comportera le moteur. Qu'importe !» fit Péricourt avec un geste dédaigneux. « Nous n'avons pas à courir un risque inutile. Il faut pourtant que vous ou moi... Non, le moteur fonctionnera tout aussi bien si l'on y attache un objet quelconque. En effet, reconnut Péricor, pensif.
Il y a des briques dans la grange, et voici un sac. Pourquoi un sac de briques ne prendrait-il pas notre place?
Bonne idée, je n'y vois pas d'inconvénient.
Eh bien, allons-y.
Et s'étant partagé les diverses pièces de la machine, les deux hommes gagnèrent l'extérieur. La lune brillait, froide et pure, seulement voilée de temps à autre par un haillon de nuages. Un grand silence planait sur l'immobilité des dunes. Ils s'arrêtèrent au seuil de la grange et prêtèrent l'oreille. Aucun bruit n'arrivait à eux, sauf le grondement sourd de la mer et les lointains aboiements d'un chien. Pendant que Brown garnissait de briques un long sac étroit, Péricor allait et venait de la grange à la maison et de la maison à la grange, occupé de ne rien oublier dont ils pussent avoir besoin. Quand tout fut à pied d'œuvre dans la grange, ils refermèrent la porte et posèrent la lampe sur une caisse vide. Puis ils étendirent sur deux tréteaux le sac de briques, y assujettirent le grand anneau d'acier, relièrent à l'anneau les ailes, les fils électriques et le coffre de métal contenant le moteur. Enfin, ils fixèrent au bas du sac un gouvernail d'acier, plat et découpé en queue de poisson. «
Nous ne disposons que d'un espace restreint. Il s'agit de nous en arranger, » dit Péricor, en faisant du regard le tour des hautes murailles nues.
« Serrez le gouvernail sur l'un des côtés, » conseilla Brown.
« Là, maintenant appuyez sur la mise en marche. »
Péricor se pencha. Sa longue figure blême frémissait d'excitation. Ses mains nerveuses couraient ça et là parmi les fils.
Brown l'observait, attentif à ses moindres mouvements, mais impassible. La machine émit tout à coup un son gras. Les ailes jaunes eurent un battement convulsif, puis un deuxième. Et à mesure qu'ils se succédaient, les battements devenaient plus vigoureux, plus larges. Au quatrième, le déplacement d'air fut comme une rafale qui emplit la grange. Au cinquième, le sac de briques se mit à danser sur ses tréteaux. Au sixième, il s'enleva d'un bond, fit mine de retomber, et relancé à point par le septième, s'élevant avec lenteur, il commença à tourner, tourner, lourdement, comme un gros oiseau maladroit, dans un bourdonnement mêlé d'un bruissement de peine. C'était une chose étrange que de voir, à la faveur de l'unique lampe, cet objet disgracieux et vague battre là-haut les ombres et tourner dans l'étroite zone de lumière. Les deux hommes restèrent un moment sans parole. Soudain, Péricor leva les bras.
« Il marche !» s'exclama-t-il. « Notre moteur marche !»
Et dans sa joie, il dansait comme un fou. Brown, les yeux pétillants, se mit à siffloter.
« Avec quelle régularité ! Voyez-moi ça, Brown !» reprit l'ingénieur. « Et le gouvernail, comme il fonctionne ! Dès demain, nous prendrons nos brevets !»
Le visage de Brown se fit dur et sombre.
« Nos brevets sont pris !» déclara le mécanicien avec un rire forcé.
« Pris ?» dit Péricor d'une voix étranglée. « Pris ?» répéta-t-il dans un hurlement.
« Qui donc a eu l'audace de faire breveter mon moteur ?»«
Moi, ce matin. »
« Il n'y a pas là de quoi vous monter la tête. Tout est comme il doit être. »
« Vous avez fait breveter le moteur ? Sous quel nom ?
Sous le mien. »
« J'estime que j'y avais les meilleurs titres. »
« Et mon nom ? Mon nom à moi ? Il ne figure pas sur le brevet ?
Non, mais... »«
Canaille !» vociféra Péricor. « Infâme canaille ! Vous voudriez me voler mon œuvre, ma finoute et ma gloire ? Ou vous allez me rendre ce brevet, ou je vous arrache la gorge ?»
Un feu sinistre brûlait dans ses yeux noirs. Ses mains se contractaient de fureur.
Brown n'était pas un poltron. Il recula néanmoins, en voyant l'autre s'avancer sur lui.
« Bas les mains »
dit-il en tirant son couteau de sa poche. « Si vous m'attaquez, je saurai me défendre. »«
Des menaces ?»
s'écria Péricor livide. « Vous pensez me faire peur après m'avoir indignement joué ? Voulez-vous me rendre le brevet ?»«
Non. »«
Brown, encore une fois, voulez-vous me le rendre ?»«
Non.
Ce moteur, c'est moi qui l'ai construit. »
Péricor s'élança. Ses yeux flambaient maintenant et ses doigts se recourbaient pour étreindre.
Brown l'esquiva, mais en l'esquivant, il buta et tomba contre la caisse. La lampe s'éteignit, la grange sombra dans les ténèbres. Seul, un rayon de lune, s'infiltrant par une crevasse du mur, accompagnait d'un vol de reflets le tournoiement des grandes ailes.
« Je vous dis de me rendre le brevet, Brown !»
Point de réponse.
« M'entendez-vous ? Je veux le brevet, je l'exige !»
Toujours point de réponse.
Nul autre bruit que le bourdonnement et le grincement du moteur, là-haut.
Péricor se sentit le cœur traversé par un frisson d'angoisse. Tâtonnant dans le noir, il rencontra et saisit une main. Elle était froide, inerte. La colère fit place chez lui à l'horreur. Il frotta une allumette, releva la lampe, la ralluma.
Brown gisait, ramassé sur lui-même, de l'autre côté de la caisse.
Péricor l'empoigna par les bras, le souleva dans un effort désespéré et eut l'explication de son silence. Le mécanicien, dans sa chute, avait replié sous lui son bras droit et par son propre poids s'était enfoncé le couteau dans le corps. Il était mort sans une plainte. Le drame avait été subi, horrible et total. Un moment, Péricord demeura stupide, assis sur le bord de la caisse, regardant fixement le vide, aigrelottant comme un homme en proie à la fièvre, tandis qu'au-dessus de lui, continuait de gronder et de tournoyer le grand moteur Brown Péricord. Combien de temps il resta dans cette attitude, nul jamais ne le saura. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Certes, dans ce qui venait de se passer, il n'avait qu'une responsabilité indirecte. Mais qui voudrait le croire? Il regarda ses vêtements éclaboussés de sang. Tout l'accusait. Mieux valait fuir que de se livrer à la justice en se reposant de l'avenir sur son innocence. Personne à Londres ne savait où il était, non plus que Brown. Qu'il réussit à faire disparaître le corps et le redevant lui quelques jours avant que le moindre soupçon vînt à naître. Un craquement violent le rappela soudain à lui. Le sac en tournant s'était de plus en plus élevé. Il venait de battre les chevrons de la toiture. Le choc déplaça la courroie de transmission et la machine s'abattit pesamment sur le sol. Péricord dégagea l'anneau. En le regardant, l'ingénieur eut une étrange idée. La machine lui était devenue odieuse. Il pouvait la faire disparaître en même temps que le corps, d'une façon qui déjouerait toute recherche humaine. Il ouvrit la porte de la grange, transporta le canard au dehors, gravit avec son fardeau dans la nuit lumineuse une hauteur voisine où il le déposa avec respect. Puis il alla chercher dans la grange le moteur, l'anneau, les ailes. Avec des doigts qui tremblaient, il fixa la taille du mort, le large cercle d'acier, puis il emboîta et vissa les ailes. Au-dessous, il suspendit la boîte motrice, y rattacha les fils, établit le courant. Les gigantesques ailes s'agitèrent, entrèrent en mouvement. 2 minutes s'étaient à peine écoulées, que le corps se déplaçait par sursaut et peu à peu, sous l'action d'une force impulsive toujours accrue, s'élevait dans le clair de lune. Péricord, sans toucher au gouvernail, avait braqué au sud l'avant de la machine. Graduellement, elle prit de la hauteur et de la vitesse, franchit la ligne des falaises, s'éloigna rapidement par-dessus les flots silencieux. Péricord, les traits tirés, la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle ne fût plus qu'une sorte d'oiseau noir aux ailes d'or, à demi noyé dans la brume marine. Chapitre 3e. À quelque temps de là, il y avait, dans l'asile des fous de l'État de New York, un pensionnaire dont nul ne savait ni d'où il venait ni comment il se nommait. Suivant les médecins, sa raison avait dû succomber à un choc dont il se déclarait incapable de déterminer la nature. Plus la machine est délicate, disait-il, plus facilement elle se détraque. Et ils évoquaient, à l'appui de cet axiome, les engins électriques fort compliqués, les appareils d'aviation très remarquables, que s'ingéniait à inventer le malade dans ses heures de lucidité. Ainsi s'achève le moteur Brown Péricord par Arthur Conan Doyle.